Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlaico, un hors-série sur le monde d'après.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus, afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. La lente reprise de l'économie fait apparaître une fracture sur la planète entre les gagnants et les perdants de l'épidémie, François.
Oui, c'est vrai. Vous savez, traditionnellement, dans les fluctuations de la conjoncture, tout le monde marche à peu près en même temps et au même rythme. Il y a des différences d'un continent à l'autre, mais elles sont relativement modestes. Or, cette fois-ci, il y a des divergences considérables. Les écarts de croissance entre les différents pays du monde n'ont pas été aussi forts depuis 40 ans, selon une étude de la banque UBS qui est citée par le journal The Economist. L'OCDE a fait d'ailleurs des calculs, hein, et cette organisation internationale nous dit que à la fin 2020, à la fin de cette année, la Chine aura un PIB supérieur de 10% à celui d'un an auparavant, donc croissance quand même substantielle. Au même moment, à la fin de l'année, les États-Unis ne feront que retrouver tout juste leur niveau de fin 2019, alors que l'Europe, elle, devra attendre au moins 2022 pour retrouver cet étiage. Le cas du Royaume-Uni étant d'ailleurs particulier, parce que on pense qu'il faudra probablement même plus de temps au Royaume-Uni de revenir au point de départ. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie très nette qui se dessine dans le monde. La Chine en tête, avec l'intensité de sa croissance. Les États-Unis qui résistent pas trop mal et l'Europe qui décroche. Nouvelle hiérarchie donc. Enfin, je dis nouvelle. C'est vrai que ça fait longtemps que cet ordre-là est en place. Mais là, l'écart entre les deux extrémités est plus grand que jamais.
Mais alors, qu'est-ce qui explique de telles différences dans la réaction au choc sanitaire, François ?
Il y a plusieurs choses. Bien sûr, il y a le déterminant sanitaire lui-même, hein, et le contrôle de l'épidémie. C'est vrai que c'est frappant de voir que tout le bloc d'Asie du Nord-Est, la Chine, la Corée, Taïwan, n'ont quasiment plus de cas, que ils vivent, je ne dis pas normalement, mais relativement proche de la normale, probablement en partie pour des raisons culturelles, politiques peut-être aussi, l'organisation de l'État, le lien que chaque citoyen a avec l'État et avec ses directives. Dans les pays européens, on est plus individualiste et probablement on se plie moins bien justement aux règles sanitaires, aux gestes barrières, etc. Il y a aussi la structure de l'économie qui compte parce que les économies industrielles résistent mieux que celles où dominent les services. C'est beaucoup plus facile de fabriquer des objets en période de Covid parce que les usines ont l'habitude des contraintes sanitaires de santé. Il faut espacer les postes de travail, mais ça ne pose pas de problème d'organisation majeure. Alors que réaliser des services où la proximité est essentielle, le restaurant, le tourisme, l'hôtel, eh ben ça c'est beaucoup plus difficile au point qu'on est même obligé de fermer toutes ces entreprises. Donc les économies où la part des services est plus importante, c'est le cas de la France notamment, sont plus pénalisées que celles où l'industrie est plus importante, la Chine, Taïwan, la Corée et en Europe l'Allemagne. Alors vous allez me dire peut-être, il y a les États-Unis où la part des services est très importante, elle est aussi importante qu'en France et pourtant ça va mieux que chez nous. On peut penser qu'il y a un autre élément clé qui joue en faveur des États-Unis, c'est la part du numérique dans l'économie qui a été très sollicitée au moment du confinement et de l'épidémie pour le e-commerce, pour le télétravail, etc. Les GAFA, Google, Apple, etc., ils sont américains. Hein. Et donc probablement l'économie américaine en profite davantage. C'est la même chose en Chine. Hein. L'équivalent des GAFA qu'on appelle les BATS, c'est B comme Baidu, qui est équivalent de Google, est aussi très importante. Le troisième facteur qui explique la différence, c'est la réaction des États face à la crise. En Europe, on a réagi assez rapidement, mais aujourd'hui, notre plan de relance européen est en panne parce que les dirigeants européens s'empaillent sur les conditions qui doivent être liées justement au décaissement et puis sur les bisbilles entre l'Est et l'Ouest. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a eu un grand stimulus très important, c'est-à-dire beaucoup d'argent qui a été dépensé pour l'économie. Il est même question d'en faire un second. Alors c'est vrai que ça bloque un peu en ce moment à la veille de l'élection, mais on peut penser que dès que l'élection sera passée, quel que soit le gagnant, on remettra entre 1 000 et 1 500 milliards de dollars dans l'économie des États-Unis, y compris en distribuant des chèques aux ménages pour qu'ils dépensent.
Alors vous parliez des GAFA et on a le sentiment qu'eux aussi sont les grands gagnants de l'épidémie. L'Union des banques suisses a publié une étude sur les ultra-riches récemment et explique que ces milliardaires innovateurs ont vu leur fortune progresser de 40% depuis 2017 sans aucune interruption finalement.
Non, c'est spectaculaire, effectivement, c'est incontestable, ce sont des chiffres édifiants. Et quand on regarde dans le détail, justement, la progression boursière des sociétés concernées, Apple, depuis le 23 mars, c'était son point bas, c'était au moment où on a décidé du confinement un peu partout, Apple a vu son cours progresser de 100%, c'est-à-dire que le cours a doublé, Amazon a également doublé, Google a pris 50%. Bien sûr, vous le disiez, c'est lié à l'épidémie, la numérisation de l'économie, le développement du commerce, de l'enseignement à distance, des réunions à distance. Et le patron de McKinsey France disait l'autre jour que on mesure la progression des nouvelles technologies dans l'économie depuis assez longtemps et que pendant le seul confinement, en gros un trimestre, on avait fait une progression équivalente à celle des 6 ou 7 dernières années. C'est dire l'extraordinaire accélération qu'il y a eu, évidemment au bénéfice, je ne dis pas exclusif, mais en tout cas principal de ces fameux GAFA. C'est d'autant plus spectaculaire que, bon, ça c'est ce qu'on voit, mais il y a ce qu'on voit pas et qu'on va voir bientôt. On voit ces GAFA arriver dans le spatial, dans l'industrie du spatial qui connaît un véritable renouveau avec le lancement des satellites en basse orbite qui va servir à la connectivité demain, c'est-à-dire à relier entre les objets, à relier les hommes avec les objets. Elon Musk, le fondateur de Tesla, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, sont eux partie prenante de nouvelles entreprises qui proposent des lanceurs de satellites à des prix très compétitifs, au détriment d'ailleurs de notre champion national Arianespace. C'est la même chose pour le véhicule autonome, où la société la plus avancée, c'est une filiale de Google qui s'appelle Waymo, qui propose d'ores et déjà des taxis sans pilote à 1500 habitants de Phoenix, c'est la capitale de l'Arizona, dans le sud des États-Unis. En fait, ils sont en train de coloniser littéralement l'économie.
Et alors pour la plus grande partie de la population, de ceux qui travaillent très loin finalement de cet univers numérique, les salariés, les indépendants, ça se passe comment, François ? C'est extrêmement difficile cette période quand même.
C'est sûr, et c'est assez difficile d'anticiper les évolutions. On voit se dessiner quelque chose, mais il faut être relativement prudent. On peut penser quand même que la digitalisation va avoir un peu le même effet que la mondialisation, c'est-à-dire que elle va accroître les différences de salaire, de perspectives professionnelles et de liberté par rapport à son travail au sein de la population active. Que les professions, je dirais, intellectuelles, administratives, qui peuvent se dématérialiser facilement, qu'il s'agisse d'ailleurs de salariés ou d'indépendants, celles qui passent au virtuel avec le plus de facilité, elles devraient en sortir relativement privilégiées, parce que justement, elles auront la liberté d'aménager leur temps de travail un peu plus, et puis, leur expertise, au fond, elle n'est pas remise en question. En revanche, des métiers dits de première ligne. Pour le coup, leur utilité, leur nécessité n'est absolument pas mise en question, notamment les métiers manuels ou les métiers de service, mais qui requièrent une présence physique. Ce sont les commerçants, ce sont les soignants, ce sont les policiers. On va avoir besoin d'eux. Pour autant, l'épidémie, de ce point de vue, va compliquer l'exercice de leur métier, les risques de contagion, on s'en rend compte aujourd'hui, sans pour autant leur offrir la liberté de pouvoir travailler à partir de chez eux. Alors, l'étape d'après, certains spéculent sur le fait que même dans les professions intellectuelle, la vague de numérisation pourrait provoquer des remises en cause parce que elle pourrait contribuer à délocaliser encore davantage le travail. C'est vrai que si vous pouvez faire votre travail à distance, après tout, vous pouvez le faire à 30 km de votre entreprise ou bien quelqu'un d'autre que vous peut le faire à 3000 km de votre entreprise. Peut-être quelqu'un qui aura la même formation que vous, la même expertise, mais qui, compte tenu du fait que il habite en Pologne, c'est pas 3000 km, mais en tout cas c'est un endroit où les salaires sont plus faibles, qui aura un avantage compétitif. Donc ça, c'est un risque potentiel qui peut agrandir les inégalités aussi. Il y a d'autres éléments auxquels on pense pas forcément, mais c'est vrai que si l'enseignement à distance se généralise et s'installe, ça va aussi provoquer une remise en cause des modes de travail des enseignants, parce que un cours magistral avec quelqu'un en face de vous qui parle pendant 2 heures, c'est déjà pas facile à suivre. Et moi, j'ai des souvenirs d'étudiants où, effectivement, au bout d'un moment, l'attention était probablement un peu relâchée. Mais sur écran, c'est tout simplement pas possible. Donc, il va falloir aux enseignants des talents différents. Il va falloir qu'ils scénarisent leurs cours, qu'ils introduisent des éléments graphiques, peut-être des éléments vidéo, un petit peu comme une émission de télévision. Enfin, pas avec ce même niveau de sophistication, mais quand même. Donc là aussi, il y a les profs qui vont s'adapter à ça, qui le feront avec talent, avec efficacité, avec plaisir, et puis d'autres qui, parce qu'ils n'ont pas forcément ces compétences-là, parce qu'ils sont d'une génération où ça n'était pas forcément envisagé, auront plus de difficultés. Tout ça pour dire que ces mutations peuvent devenir un levier de désintégration sociale, quand même, au moins de dissociation entre les trajectoires individuelles qui seront de plus en plus différenciées au sein d'un même groupe social. Et c'est donc potentiellement un monde plus inégalitaire. Si on nous ajoute à ça quelque chose qui est plus connu et plus documenté, c'est les effets de la politique monétaire qu'on utilise pour combattre les effets dépressifs de l'épidémie, les taux zéro, l'injection d'argent par milliers de milliards dans les économies. On voit que le premier effet que ça a avant de stimuler l'économie, c'est que ça fait monter les cours de la bourse et les prix de l'immobilier. Autrement dit, ceux qui ont déjà et des actions et des logements, eh bien, ils voient leur capital se valoriser, alors que les autres, quand ils veulent acheter, c'est beaucoup plus difficile pour eux parce que la marche à franchir est plus élevée. Donc là aussi, on voit que du point de vue macroéconomique, il y a des ferments de montée des inégalités qui peuvent gagner en ampleur dans nos sociétés.
Mais alors, est-ce qu'il faut en conclure, François, que les gagnants d'aujourd'hui seront les gagnants de demain pour toujours, en quelque sorte, ou bien est-ce que finalement les grands gagnants d'aujourd'hui pourraient être d'une certaine manière les perdants de demain, parce que sinon on va vers une montée inexorable.
C'est un peu désespérant.
Des inégalités, oui.
C'est la grande question. Je pense que il y a un facteur qui va jouer contre les détenteurs de capital, c'est la probable crise financière qui nous attend avec cette accumulation de dettes. Bon, on peut penser que ça va secouer et que justement ceux qui possèdent seront affectés. Bon, ça c'est sûr. Il y a un autre phénomène. Et il faut pas le considérer comme secondaire, c'est les réactions politiques que ce monde peut engendrer, parce que effectivement on voit que au-delà d'un certain seuil, les populations ont beaucoup de mal à supporter cet état de fait et que les gouvernements essayent de rétablir une certaine forme d'égalité avec la redistribution, avec l'impôt, avec des actions d'autorité comme le démantèlement des entreprises qui sont jugées trop puissantes ou qui peuvent être en situation d'abus de position dominante. Donc la réaction politique comptera pas mal. Ça, j'allais dire, c'est la réaction brutale. Maintenant, il y a aussi des réactions sur le plus long terme. C'est vrai que toutes ces révolutions technologiques peuvent avoir des conséquences et sur les revenus et sur les opportunités de travail des classes défavorisées ou bien des gens les moins formés. Là, il y a des actions de long terme aussi. C'est la formation, c'est éventuellement le partage du temps de travail, pas forcément à la façon des 35 heures, mais de façon plus progressive et plus raisonnable. Et puis, c'est aussi la redistribution avec la mise en place de filets de sécurité pour les populations les plus démunies. On en a fait un usage très important dans les derniers mois. Je pense qu'on va vivre avec ça pour longtemps.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL.fr ainsi que sur toutes vos plateformes favorites.